Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je suis ravi de vous accueillir encore une fois à Marcher vers le bien-être. Lors de l'épisode du 29 octobre dernier intitulé « La marche qui sauve des vies », j'ai eu le plaisir de vous présenter Éric Lafortune et Patrick Auger, pour qui la marche s'est avérée une véritable bouée de sauvetage. Vous pouvez d'ailleurs écouter cet entretien en vous rendant sur le site jemarchepartout.com. Un moteur de recherche vous permettra de le retrouver rapidement et de le télécharger à tout moment. Cette semaine, j'ai le privilège d'accueillir une autre personne exceptionnelle pour qui, cette fois, de longues marches dans Charlevoix lui ont permis de surmonter les terribles nouvelles et nombreux traitements associés à non pas un, mais à deux cancers. Il s'agit de Myriam Saint-Louis, une jeune femme dans la trentaine qui résume ainsi son expérience, la thérapie par la randonnée. En deuxième partie d'épisode, nous recevons, comme à toutes les deux semaines, Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur postural. Michel nous parle aujourd'hui, dans sa chronique « Le corps en marche », des bienfaits insoupçonnés de la marche. Tenez-vous bien, à reculons. Oui, 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 la marche à reculons. Mais pour l'instant, retrouvons Myriam Saint-Louis. Bonjour Myriam et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rendre visite à Marcher vers le bien-être.
Bonjour Denis, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de venir vous parler de mon parcours.
Et vous êtes pleine d'énergie, oui. C'est bon de vous voir.
Oui.
Alors Myriam, vous êtes géologue.
Pourquoi? Oui, je suis géologue.
Pourquoi avoir choisi cette profession?
Ça part de loin, en fait. Quand j'étais jeune, ben, premièrement, mon père collectionnait les roches, puis je me suis toujours intéressée aux phénomènes de la Terre, que ce soit les tremblements de terre, les volcans, toutes ces choses-là. Puis au cégep, quand j'ai fait mon parcours en sciences nature, j'ai eu la chance d'avoir un prof de physique, un des trois cours de physique obligatoires, dans oui. le fond, que lui, c'était un tripeux de géologie aussi.
Ah bon?
On s'est mis à échanger, j'ai fait mon projet de fin d'études avec lui. Puis c'est là que le déclic s'est fait. J'ai décidé d'aller en géologie à l'université.
Et voilà. Et vous êtes maintenant à Fermont.
Non, en fait, mais c'est ça. J'ai été à Fermont pendant 11 ans.
11 ans,
ouais.
OK.
De 2011 à 2020. Oui, 2021, 2022, je
ne
sais plus.
Peu importe. Vous étiez en pleine nature, ce que vous aimez aussi, je pense.
À Fermont, ça?
Oui, c'est ça, oui.
Oui, bien, c'est sûr que c'est quand même un super de bel endroit. J'aurais aimé avoir l'opportunité de visiter plus. C'est sûr, quand on est là pour le travail, on a moins la chance, mais oui, c'est vraiment c'est un bel endroit, Fermont.
Alors, ce qui m'a intéressé dans notre pré-entrevue, c'est que vous étiez, et vous êtes toujours, mais vous étiez même à ce moment-là une grande sportive.
Oui.
Vous aimiez la course.
Oui.
Et puis, vous avez... conquis le mont Kilimanjaro, entre autres.
Oui, en 2014, ça avait été vraiment un beau projet, ça.
Et à ce moment-là, vous aviez... Et là, on parle de cette annonce-là de cancer. On va en parler dans un petit moment. Mais vous étiez en pleine forme et même que vous aviez votre meilleur temps aux 5 kilomètres.
Oui, juste avant mon diagnostic, là, peut-être 2 ou 3 semaines avant, là, je venais de battre mon temps aux 5 kilomètres.
Alors là, vous êtes à Fermont. Et vous recevez un coup de téléphone qui allait changer votre vie.
Oui, bien, c'est ça. J'étais en train de travailler. Puis, je reçois un appel de mon médecin de famille. Puis, ça, c'était début juillet 2019. Elle me dit, j'ai tes résultats de biopsie. J'aurais vraiment besoin de te voir demain.
Oh.
Puis là, moi, je lui explique, bien, je suis au travail, je suis à Fermont, tu sais, ça me prend un avion pour revenir. C'est pas aussi simple que ça. Puis là, elle insiste, elle veut vraiment me voir le lendemain.
Mm-hmm.
Fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, 1 + 1, ça donne 2. Ça veut me voir, ça doit être parce que c'est pas des bonnes nouvelles pour ma biopsie. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé.
Parce que vous aviez subi des examens avant,
oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais découvert une masse en me faisant un auto-examen. Puis j'avais fait les examens, le biopsie et tout, pour voir si c'était cancéreux ou non. J'étais convaincue que non, mais apparemment que...
Oui, oui, oui. Alors, votre première réaction, ouf, c'est le choc.
Oui, c'est le choc. Mais moi, je dirais que pas mal instantanément, ça a été tout de suite de tomber en mode combat. Ça a été tout de suite,
ah,
OK,
oui.
C'est correct, ça va bien aller, je suis capable de passer au travers. Tout est correct.
Parce que vous êtes positive de nature.
Oui, un petit peu trop, mais ça, peut-être qu'on y reviendra plus tard, là, comme je vous expliquais en pré-entrevue. Puis j'ai eu la chance d'avoir vraiment une bonne superviseure qui m'a tout organisé, mon transport pour revenir, pour reprendre l'avion, aller voir mon médecin.
Alors, vous arrivez dans le bureau de votre médecin, qu'est-ce qu'elle vous annonce?
Oui, bien là, elle me l'annonce officiellement, parce que c'est sûr qu'au téléphone, elle ne voulait pas trop me confirmer. T'sais, c'est pas le genre de nouvelles que tu peux donner au téléphone, même si tu sais que l'autre personne au bout du fil s'en doute pas mal.
Oui.
Fait que c'est ça. Là, elle me confirme ça. Elle m'explique les prochaines étapes pour la suite. Les autres professionnels, les autres médecins que je vais avoir à rencontrer. Moi, je me suis fait traiter au CHRTR à Trois-Rivières.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça. Elle m'explique les autres étapes. Elle me donne des dates de rendez-vous. Puis c'est là que ça a commencé.
Et là, on annonce une opération, c'est ça? Il va falloir enlever la tumeur et puis...
Au minimum, c'était une opération puis de la radio.
OK.
Ça, c'est l'oncologue à Trois-Rivières, dans le fond, qui m'a annoncé ces choses-là.
Mm-hmm. Et là, vous avez une belle invitation d'aller faire un petit tour dans Charlevoix.
Ben oui. J'avais une amie qui, dans le fond, elle est en train de faire de la randonnée dans Charlevoix. Fait que, ben, pourquoi pas aller la rejoindre? Ça va me faire du bien entre... J'avais à peu près... Moi, je suis revenue, je pense que c'est le 3 juillet que je suis revenue à la maison pour mes rendez-vous médicaux puis tout. Puis mon examen, ben, en fait, mon opération était le 17. Fait que ça me donnait quand même deux semaines qu'il fallait que je me change les idées.
Oh oui!
Puis j'avais une amie qui était déjà dans Charlevoix à faire de la randonnée. Elle, ce qu'elle faisait, c'est le défi des 5 sommets.
Le défi des 5 sommets.
Ouais.
Mais là, je précise que vous aviez aussi votre anniversaire qui n'était pas tellement loin, n'est-ce
c'est
pas?
Ça.
Le 18,
oui,
hein?
18.
C'est ça, le 18 juillet. Oui, oui. Donc, vous arrivez dans Charlevoix, c'est le défi des 5 pics. Dites-nous brièvement ce que ça représente. C'est quoi le défi des 5 pics?
Ben, en fait, le défi des 5 sommets, c'est qu'à chaque année, ils choisissent 5 sommets que vous pouvez gravir comme vous voulez, quand vous voulez. En fait, c'est entre, je n'ai pas les dates exactes, mais c'est entre juin, puis c'est jusqu'à d'habitude, c'est l'action de grâce. Fait qu'on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, puis ils choisissent les 5, puis il y a le Mont Mystère aussi, que si tu fais les 5, bien, ils donnent l'identité du Mont Mystère que tu peux aller gravir ensuite.
Alors, vous suivez l'invitation, vous y allez, et vous montez le pic de l'aigle, c'est ça le premier?
Oui, c'est ça. Elle avait déjà les 4 autres de fait, et il restait celui-là à faire.
Ouais. Donc, c'était le coup de foudre, c'est ça?
Oui, c'est là que je me suis dit, ça serait une bonne façon, ça, de faire passer la nouvelle, de randonner, m'aider le moral, dans le fond, puis me dire, même avec tous les traitements, là, je pense que je vais être capable, là, je vais me donner un défi, puis je vais le faire, le défi des 5 sommets.
Oui.
Je vais vous prouver que c'est faisable.
Et comment on sentait le premier jour là, sur le pic de l'aigle? Comment ça a été lent comme apprivoisement plutôt de cette randonnée?
Ça a été... ça a bien été parce que je faisais déjà de la randonnée. Puis je dirais que c'est plus le côté mental peut-être que ça l'a beaucoup aidé. Parce que c'est là que j'ai pris la décision que ça allait bien aller. Puis que c'est moi qui décidais, que c'était dans mon contrôle, puis que... C'est ça, que j'allais juste continuer à faire de la randonnée pendant que je vivais
ça. Voilà. Et là, le sentier du Mont-Élie, c'était le deuxième. Et là, ça s'est bien passé aussi.
Oui, c'est ça. Le Mont-Élie, ça a été 2 semaines après mon opération, le Mont-Élie.
OK, donc après l'opération. Oui. Et le troisième, le sentier du Mont des Morios. Là, petit changement de cap, là.
Oui, c'est là que tout a changé, je dirais, dans mon mental. Parce que, dans le fond, la veille que je fasse les Morios, c'est là qu'on m'avait annoncé que j'allais faire de la chimio. Puis quand je disais que j'étais peut-être un peu trop positive tantôt, c'est que moi, dans ma tête, j'étais convaincue que mon cancer, c'est un grade 0 ou un grade 1, puis qu'après l'opération puis la radio, que ça allait être terminé. Qu'en octobre, j'allais retourner au travail, puis que tout allait bien.
La vie normale reprend.
Oui, c'est ça. Puis là, le 6 août, on me dit... Mais non, c'est un grade 3. Va falloir que tu fasses de la chimio.
Oh, parce que
là,
3, c'est sérieux, bien sûr. Là. Oui, oui. On approche du 4.
Oui, c'est ça.
C'est très, très, très sérieux.
C'est ça.
Alors, vous vous êtes reprise en main encore une fois. Et vous avez quand même gravi les 2 autres pics.
Oui.
Les autres, 2 autres monts, l'Acropole des Draveurs et le Ligori.
Oui, c'est ça.
Oui. Et comment ça s'est passé, ces deux-là?
Bien, ça a bien été aussi, tu sais. Moi, on dirait qu'un coup que j'ai eu le déclic au Morios, que je me suis dit, OK, c'est pas grave, la chimio, je vais être capable de passer au travers ça aussi. J'étais comme repartie un peu sur la même lancée que tout allait être correct, puis que j'allais faire le défi des 5 sommets, puis que j'allais faire le mon mystère, puis que j'allais retrouver ma vie. Ça allait être un petit peu plus long, mais que...
Oui, c'est oui, ça. Oui, oui. Et le mon mystère, en fin de oui. compte, c'est quoi? C'est lequel?
Oui, bien, le mont mystère, cette année-là, c'était le mont du Dôme. Puis, dans le fond, moi, j'ai eu ma première chimio le 4 octobre. Il a fallu que je passe par un processus de congélation d'ovules là, qui a pris peut-être 2 mois avant de tomber dans la chimio.
Oui.
Fait que la chimio, j'ai commencé début octobre. Puis, dans le fond, le mont mystère, je l'ai fait avec des amis deux semaines plus tard. Là. C'était vraiment la dernière fin de semaine qu'on pouvait compléter le défi, là, la fin de semaine de d'Action de grâce.
Mm-hmm, mm-hmm. Oui. Et puis, là, vous vous sentiez bien quand même.
Bien, c'était quand même difficile parce que bien, le premier traitement de chimio est quand même moins pire dans le sens qu'à un moment donné, c'est avec l'accumulation que ça devient de plus en plus difficile. Puis moi, dans le fond, de la façon que ça se passait, c'est que, admettons, j'avais mon traitement. Pendant 3-4 jours, ça allait bien. T'sais, je me sentais normale, mais j'avais un gros crash entre jour 4 puis jour 5. Puis ça me prenait 4 ou 5 jours être capable de même, je dirais, juste marcher, monter des marches.
Ah oui, à ce point-là.
Ah oui. Moi, quand j'avais mon crash, mon activité, la seule chose que j'étais capable de faire, c'est de coucher sur mon divan puis fixer le mur.
Là. Oh là là.
C'était ça. Je n'étais même pas capable de lire parce que je n'étais pas capable de me concentrer. Même chose, je ne pouvais même pas regarder la télé parce que c'est comme si j'étais une coquille vide. Là.
Ah oui.
Fait que un coup ça passé, par exemple, là, ça a commencé à remonter la forme un petit peu. Fait que le mont du Dôme, ça a quand même été difficile. Parce que j'étais quand même pas dans ma forme normale, mais tu sais, j'étais sur la pente montante, là.
Et vous avez graduellement repris la forme quand même.
Oui, bien, c'est ça. C'était toujours la même chose, dans le fond. Tu sais, 3-4 jours de correct. Après ça, un gros crash qui durait 4-5 jours. Après ça, je remontais la pente un petit peu. Puis après ça, prochain traitement. Bon, on recommence la roue.
OK. Et vous faisiez de l'exercice, là?
Je marchais.
Vous marchiez, c'est
je
ça.
Marchais
c'est
beaucoup,
la marche qui vous a aidé.
Surtout avec ma mère,
oui. Ah oui?
Oui. Bien, j'ai passé beaucoup de temps dans mon petit village natal, à Saint-Paulin. Puis, dans le fond, ben mes parents s'occupaient un peu de moi, tu sais.
Oui.
Ma mère, elle me faisait à manger. Puis tout le monde, j'ai été vraiment bien entourée tout le long.
On se laissait dorloter un peu.
Oui,
là.
C'est ça.
Et pendant la marche, ben, ça vous a permis d'échanger, de...
Oui, oui, j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère.
Elle vous a appuyé beaucoup, évidemment, vous a encouragé.
Oui, puis on s'encourageait. Ah, tu sais, on va sortir, on va aller faire une petite marche. Puis on faisait... on allait à tous les samedis au Parc Run. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de parkrun.
Non, expliquez-nous.
Bien, en fait, c'est un 5 km qui est organisé. C'est un peu partout dans le monde. Là. Il y en a jusqu'en Australie, je pense. Fait que dans plusieurs villes, il y a plusieurs villes qui participent. Puis c'est juste un 5 km. Il n'y a pas de pression de temps.
Oui,
tu peux le faire à la marche, à la course, peu importe. C'est juste pour faire bouger les gens.
Oui.
Fait qu'il y en avait un à Saint-Paulin. Puis on y allait avec ma mère. Puis on avait notre petit parcours, là, sinon, dans la semaine là, qu'on faisait.
Oui, oui. Alors, vous vous êtes graduellement remise en forme, c'est
oui,
ça?
Oui, oui, à marcher.
Et à tel point que vous avez fait des exercices, là, et des compétitions, ou en fait des marathons, ou en fait, vous vous acheminiez vers la reprise de vos activités de sport régulières.
Ben, en fait, je faisais déjà de la course avant mon cancer, mais on dirait que passer au travers de ça, ça m'a encore plus donné le goût de faire du sport. Fait que ça m'a donné le goût de dépasser mes limites. Ben, je dirais pas de dépasser, parce que plus de surpasser, dans le fond. Là. Parce que le plus que j'avais fait, c'était un 10 km. On dirait que là, ça m'a donné le goût de faire un demi. Après ça, un marathon.
Oui, oui.
Là, après ça, c'est une roue qui s'enchaîne. Oui, oui.
Et c'est ce que vous avez fait là, après vos traitements. Alors, racontez-nous un peu progressivement là, où vous êtes arrivé à faire le 5 km et ensuite le demi-marathon. Et est-ce qu'il y avait d'autres courses ou d'autres...
Ouais.
Compétition là, auxquelles vous avez participé?
Ben dans le fond, c'est ça. J'ai fait mon premier demi-marathon en octobre 2021. Puis avant même d'avoir fait le demi, j'avais été... Il y a toujours un petit expo, là, dans le fond, là, où est-ce qu'il y a des commerçants. Puis
Oui.
À chaque course, dans le fond. Mm-hmm. Puis même avant de courir le demi, quand je cherchais mon dossard, je me suis inscrite au marathon d'Ottawa.
Oh!
Fait que je savais même pas de quoi ça avait l'air un demi-marathon, mais je me suis dit, ah... Je suis capable de faire ça, moi, un marathon. Ça prendra le temps que ça prendra.
Oui, et vous l'avez fait.
Oui,
je l'ai
fait après ça, en 2023.
Bon, oui. C'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Alors, Il y a eu ce premier cancer, oui. Évidemment, et vous l'avez surmonté très bien, d'ailleurs. Vous avez fait de l'exercice des compétitions après ce premier.
Oui. Bien, ça a été vraiment quand même difficile, le retour à la course, là, parce que, disons, je courais 30 minutes, 45 minutes, ça allait bien, mais c'est qu'après ça, je passais 2-3 jours à ne pas avoir d'énergie du tout. C'est comme si ça me prenait tout, fait que ça a comme été vraiment long de revenir à la course. Là.
Oui, oui, oui. Vous êtes positive, vous êtes motivée.
Oui.
Comment vous faisiez ça, dans le fond?
Oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça.
Oui, hein, comment on se motive?
Bien, je ne sais pas, on dirait que j'ai comme toujours été en mode combat, puis je vais prouver à la maladie que c'est rien ça. Moi, je suis capable de passer au travers, puis je suis capable de faire des grandes choses, même si je ne veux pas laisser ça me définir, là, dans le fond.
Oui, 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 oui. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte que, bon, là, j'ai repris la forme, là, je suis en top shape, comme vous dites, là? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur qui vous dit, ben là, je suis prêt de reprendre la forme? Là?
Non, bien, je dirais que c'est plutôt graduel là, que ça s'est fait. Là. Mais c'est sûr que quand je me suis sentie prête à m'inscrire à un demi-marathon, puis j'ai fait quelques courses de trail aussi avant ça, là, ça commence à bien aller. Là, je considérais que j'avais pas mal retrouvé la forme que j'avais avant.
Oui, oui. Et c'est un soulagement quand même.
Oui, oh mon Dieu, oui.
Et puis là, un deuxième.
Oui.
Un deuxième cancer. Oui. Racontez-nous, parce que c'est quand même inusité, là. Vous aviez le cancer du sein.
Oui.
Vous vous êtes battu.
Mm-hmm.
Et vous avez vaincu.
Mm-hmm.
Et puis là, boum, on vous annonce un deuxième cancer.
Oui. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, pour une raison qui est encore inconnue à ce jour, c'est que j'engourdissais du côté droit mon bras puis ma jambe. Moi, je m'en allais faire la traversée de Charlevoix. Enfin, je me suis dit, ça serait une bonne idée, avant d'aller dans le bois, une semaine, pas de réseau, d'aller juste aller faire vérifier qu'est-ce que c'est.
C'est ça. Oui, bonne idée.
Ça serait
bonne
prudent.
Idée. Absolument.
Donc, je me rends à l'urgence. Ben, j'appelle Info Santé en premier, puis ils me disent, ah, tu sais, t'es mieux d'aller à l'urgence, parce que aussitôt que t'engourdisses, ils ont toujours peur que ce soit un AVC. Là.
Oui, oui, oui.
Fait que je me rends à l'urgence, ils me passent des scans. En regardant ma colonne vertébrale, ils voient que par en avant, j'ai des nodules sur la thyroïde. C'est quelque chose, en fait, des nodules sur la thyroïde, c'est quand même vraiment fréquent, mais moi, vu que j'ai un historique de cancer, c'est toujours doublement prudent.
Hein? Fait oui,
que là,
oui, oui, oui.
J'ai passé d'autres examens, ils me passent une biopsie. Ça a quand même été long, tous les examens. Ça a pris peut-être un an. Ils ont décidé de m'opérer après ça en mai 2022.
Oui.
Ils m'ont enlevé la moitié droite.
Oui.
Ensuite, ils font une biopsie sur la moitié droite. Puis là, ils confirment que c'est cancéreux. Donc là, vu que la moitié droite était cancéreuse, bien, on n'a pas le choix. Il faut enlever la moitié gauche aussi.
C'est ça, oui. Quelles sont les séquelles de ces interventions-là?
La première, j'ai rien eu. Ça a super bien été.
Oui.
La deuxième, j'avais une masse cancéreuse vraiment collée sur ma corde vocale. Donc, il a fallu qu'ils tirent vraiment fort. Ils ont pensé proche de devoir la couper. Puis en tirant vraiment fort, ça l'a choqué, puis elle est restée paralysée.
Donc, mais votre voix est normale? Vous
oui.
parlez normalement?
Oui, ma voix est normale parce que ma corde vocale est paralysée, fermée. Ce qui veut dire que, ben, en fait, ma gauche est capable de compenser, est capable d'aller s'accoter sur la droite pour parler. Mais la séquelle qui me reste, c'est que ma corde vocale droite n'est pas capable d'ouvrir pour aller chercher de l'air. Donc, j'ai comme moins d'air qu'une personne normale, si on peut dire.
Oui. Donc, ça a touché vos activités sportives?
Oui, parce que je me suis mis à être vraiment essoufflée. Mm-hmm. Le temps que mon corps s'habitue, surtout. Là, moins pire présentement, mais j'ai passé des mois à me demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi je t'essoufflais comme ça, puis je sillais dans le fond. Aussitôt que j'allais plus vite à la course, quand je faisais des intervalles ou peu importe, ou en montant une montagne...
Mm-hmm.
Oui. Notre rythme cardiaque augmente quand on monte.
Oui.
Dans le fond, ma respiration sifflait comme quelqu'un qui fait de l'asthme.
Ah oui.
Ouais.
Oui. Oui, oui. Et puis, ça vous gênait un peu quand même?
Ben oui, parce que j'avais l'impression de rentrer en détresse respiratoire, que j'avais plus d'air du tout.
Ah, ça, donc, physique, mais c'était surtout mental, j'imagine.
Oui, bien, les premières fois, tu paniques un peu. Oui, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas d'air? Après ça, tu apprends à le gérer, de dire, OK, non, fais juste ralentir, tu vas retrouver ton souffle. Mais je n'étais pas capable d'aller aussi vite, par exemple, dans des entraînements d'intervalle ou des choses, des choses du genre.
Alors, comment vous avez repris le rythme, pour ainsi dire, là? Comment vous avez repris cet entraînement où aujourd'hui, vous faites pratiquement ce que vous voulez, là, au niveau sportif? Ça a été long, ça a été régulier? Ça a été,
Oui, ça a été quand même long parce que il a fallu que je change ma façon de m'entraîner pour y aller plus en lenteur. Puis, il y a la partie mentale aussi d'accepter de tomber là-dedans un peu plus, là, de dire, OK, je suis plus capable d'aller vite, mais étant donné que je suis plus capable d'aller vite, bien, je vais aller dans l'endurance. Puis, je n'allais pas très vite non plus. Je n'ai jamais été une coureuse rapide ou une marcheuse rapide.
D'accord, oui.
Mais j'ai comme changé mon fusil d'épaule un peu pour me dire, bien, si je ne peux pas aller vite, je vais aller loin.
Mm-hmm. Ah oui, c'est la distance. Et la distance, c'est excellent. On en a parlé à une autre émission, dans une de nos chroniques santé, justement, par la marche. Et la distance est parfois plus appréciable que la vitesse. Oui, absolument.
Absolument. Parce qu'on prend le temps d'observer aussi autour. Puis moi, c'est ça que j'aime, par exemple, dans un marathon ou peu importe, c'est que j'aime pas ça aller vite puis me dépêcher. Moi, j'aime ça prendre mon temps, regarder le paysage autour, remercier les bénévoles.
c'est bien.
C'est ça, vraiment, il y a toujours plein de gens autour avec des pancartes. Prendre le temps de les voir, là, puis c'est la même chose à la marche puis en randonnée, c'est que ça m'a fait réaliser à quel point c'est important de ralentir.
Oui. Pour jouir un peu de la vie, de ce qu'on fait.
Oui.
Et des gens qui sont autour de nous, de la nature autour de nous.
Oui.
Alors, quelles sont les activités auxquelles vous avez participé, justement, là, pour nous donner un bon exemple de votre remise en forme?
Bien, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de randonnées. J'ai commencé à m'attaquer au 75 sommet du défi 75S.
Oh, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, en fait, c'est un défi de Rando-Québec. Il y a 75 sentiers dans toutes les régions administratives du Québec de différents niveaux de difficulté. Fait que c'est super intéressant. Ça fait vraiment voir toutes les régions. Ça fait découvrir des sentiers qu'on n'aurait pas connus. Fait que j'ai commencé là-dessus. Puis beaucoup de courses.
Oui. Alors, je reviens à ces sentiers. Oui. Vous en avez fait combien à ce jour?
Je pense que je suis rendue à 40 ou 42.
42 déjà?
Bien, c'est parce qu'après ça, ça devient un petit peu plus difficile d'aller chercher. Les derniers sont durs à aller chercher parce qu'il faut que tu ailles en Baie James, il faut que tu ailles sur la Côte-Nord, il faut que tu ailles aux Îles-de-la-Madeleine.
Ils sont plus éloignés, voilà.
Ça prend un petit peu plus de planification.
Oui, c'est ça. Mais vous adorez,
Oui, c'est vraiment un beau défi.
Oui. Et ça, c'est Rando-Québec.
Oui, ça va être
pour nos auditeurs là, qui aimeraient peut-être se joindre à vous.
Oui, ils peuvent juste aller sur le site de Rando-Québec, selon moi, là, juste chercher défi 75S, puis c'est gratuit. Puis on a toute la vie pour le faire.
Bon, ça, c'est déjà bon. Et vous me disiez que vous avez fait un ultra-marathon.
Oui, cet été, dans le fond, en juillet 2024, j'ai participé à la Big Wolf Backyard de Kakuna. Fait que ça, dans le fond, une backyard...
Qu'est-ce que c'est un ultra-marathon?
Ben, en fait, généralement, un ultra-marathon, ben, c'est les distances qui sont en haut du marathon, donc en haut de 42,2. Généralement, ça se fait en trail. Dans les mêmes sentiers de randonnée de tous les jours. Mais dans le cas d'une backyard, c'est une course en boucle. Fait qu'à toutes les heures, il y a une boucle de 6,7 km qui commence. Faut que tu la termines dans l'heure parce que il y a la prochaine qui commence à la prochaine heure. Puis c'est jusqu'à temps que tu sois plus capable d'avancer. C'est carrément ça.
D'épuisement aux arrêts.
Oui, puis là tu alternes... course et marche, dans le fond, pour ne pas faire trop monter ton rythme cardiaque, pour pouvoir durer le plus longtemps possible.
Mm-hmm. Et vous êtes toujours en forme.
Oui.
La forme est toujours au rendez-vous. Parce que là, vous avez d'autres projets. C'est quand même incroyable ce que vous faites. Le sentier international.
Bien, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Dans un horizon peut-être de 3 à 5 ans, là, je me laisse le temps. J'ai des choses à placer au travail avant pour pouvoir prendre vraiment... un mois et plus pour pouvoir aller faire le sentier international des Appalaches. Mais j'aimerais vraiment ça faire de la longue randonnée, de la plus longue randonnée, parce que le plus que j'ai fait, c'est 7 jours.
Mais c'est déjà bon.
Oui, j'aimerais vraiment ça faire la SIA.
Parce que ça, c'est plusieurs centaines de kilomètres.
C'est 650, il me semble.
650. Est-ce que lorsque vous faites ces grandes randonnées, ça vous inquiète toujours de ressentir des malaises quelconques, un petit peu comme vous aviez ressenti plus tôt? L'éloignement, est-ce que c'est important pour vous maintenant?
Bien, je dirais pas non que j'ai de... j'ai de malaise, peu importe, à faire ces distances-là ou que je me sens, comment je peux dire, ça ne me fait pas peur.
Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'anxiété.
Non.
Bon, OK.
Mais moi, j'aime ça d'être seule aussi. Fait que j'aime beaucoup randonner seule. Là.
Oui, oui.
T'sais, ça me fait réfléchir. C'est là qu'on dirait que je mets toutes mes idées en place. Là.
OK, oui. Oui, oui. Donc, la solitude.
Oui, j'aime ça.
Oui, oui. C'est un gage de réflexion, de méditation. On se replie un petit peu sur soi et on refait sa vie à chaque fois. Là. Oui, l'introspection, c'est bon. Et là. Comme notre amie Catherine Turgy, qu'on a eu à l'émission, là, vous avez dans votre mire le Pacific Trail, West Coast Trail aux États-Unis.
Oui, j'aimerais vraiment beaucoup faire la PCT. Ça, c'est vraiment un projet de plus longue haleine. Là, parce que ce que je trouve un peu difficile, c'est que j'adore vraiment beaucoup mon travail. Fait que prendre plusieurs mois, on dirait que ça va me manquer. Fait que c'est placer les cartes pour ça, mais j'aimerais vraiment ça faire des projets du genre. Là.
Oui, oui. Vous êtes débordante d'énergie, là. On vous écoute et moi, j'ai le plaisir de vous voir en action, là. D'où ça vient, cette énergie, ce positivisme, vous pensez?
Je sais pas. C'est sûr que quand tu vis des choses dans la vie, ça change ta perspective sur un peu tout, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un un peu de... J'ai toujours eu du gaz, moi, dans la vie. Hein. C'est comme ça que je le dis. Là. Si j'ai pas de gaz, il y a quelque chose qui est pas normal. Mais c'est beaucoup dans les valeurs de ma famille aussi, je pense.
Ah oui?
Ouais, je pense que oui.
Et vos parents vous ont donné ça en cadeau. Est-ce que vos frères et sœurs, je ne sais pas si vous en avez là, c'est une belle énergie qu'on retrouve un peu partout.
Oui, c'est des bons humains chez nous.
Ouais. C'est joli, joli d'entendre ça. Ouais. Écoutez, Myriam, nous allons prendre une pause musicale et ensuite on revient en peut-être se posant des questions, là, un peu de réflexion sur ce que vous avez vécu et peut-être des conseils qu'on pourrait prodiguer aux auditeurs. Nous sommes en compagnie de Myriam Saint-Louis, une jeune femme dans la trentaine qui a subi, en fait, deux cancers et qui s'en est remis et qui est toujours pleine d'énergie, débordante de joie et qui nous raconte un peu son parcours. Et c'est le temps peut-être de réfléchir un petit peu aux leçons de vie. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous pourriez décrire le rôle de la randonnée, la marche, là, dans votre guérison, en fait, dans votre vision sur la vie?
Bien, je dirais que ça a été surtout l'aspect mental. Je ne sais pas si c'est les hormones que ça sécrète quand on est en nature et on fait de l'exercice physique, mais juste ça m'a permis vraiment d'accepter ce qu'il y avait devant moi, ce que j'avais à faire. Puis, je dirais que le principal, ça serait ça. Là.
Mm-hmm. C'est le mental.
Oui, c'est le mental, beaucoup.
Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est venu progressivement, là, au fur et à mesure que vous aviez vos randonnées, que vous vous êtes remise en forme, là, cette énergie, cette force, vous êtes venue.
Ouais, oui et non, parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par déclic. Puis ce déclic-là en particulier, puis je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est vraiment l'hémoriose.
Ah oui?
Oui.
Alors, revenons-y, là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là sur le mont?
Bien, je ne sais pas, je suis partie, en fait... C'était déjà prévu que je voulais faire les morions cette journée-là, puis je me suis vraiment posé la question, étant donné la mauvaise nouvelle que j'avais eue la veille, j'y vas-tu pas, je suis pas dans le mood, j'ai pas le goût d'y aller, mais je me suis forcée à y aller. Puis dans la montée, puis tu sais, c'était quand même vraiment difficile, là, ceux qui ont fait les morions, c'était monté par l'expert, est quand même pas facile. Là. Puis je sais pas, j'écoutais de la musique vraiment inspirante, que je me souviens vraiment pas c'est quoi, mais je montais, j'écoutais ma musique, puis ça a comme fait vraiment un déclic de « OK, non, mais c'est pas si pire que ça, tu sais, je vais faire ma chimio, puis tout va être correct, puis OK, c'est beau. » J'ai terminé les morioses, je suis retournée à mon auto complètement zen, puis tout était correct.
Ah oui?
Ouais, ça a été un changement vraiment drastique, là, je
instantané,
dirais.
Hein? Oh, oui. Instantané.
Ouais.
Ah oui, oui, oui. Et puis, j'imagine que ce genre de réaction, ça nous touche dans toutes nos épreuves, parce que vous en avez eu beaucoup. Hein?
Oui.
C'est ça, oui.
Bien, ça change la vision que tu as sur la vie tout court. On dirait qu'après ça, tout ce qui arrivait, ça remet tout en question. Puis même dans ma pratique de la randonnée, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait aller au sommet le plus vite possible.
Ah oui?
Tandis que là, ma vision des choses, c'est juste de sortir, jouer dehors, puis on s'en fout de combien de temps ça prend. Là.
Ah, c'est intéressant, oui.
Ouais.
Oui, oui. On prend le temps de jouir du moment.
Plus du tout
moment.
De performance, du tout. Que ce soit à la marche ou à la course, c'est plus du tout dans les cartes de la performance.
Ah, vraiment? Oui, ouais. Oui. Et là, vous remplacez notre ami Patrick Auger dans sa randonnée du Mont Washington, parce que Patrick était ici... à notre micro avec Éric Lafortune il y a quelques semaines. Et il a dû, lui aussi, changer le cap un peu. On lui avait trouvé un malaise cardiaque. Il a subi l'opération et tout. Et vous le remplacez. Ça, c'est quand même exceptionnel. Hein?
Oui, ça a été tellement une expérience incroyable parce que ça faisait un bout que je me disais que j'aimerais ça accompagner des gens à faire de la randonnée parce que, pour moi, c'est tellement important d'aller jouer dehors. Puis j'aimerais ça que... tout le monde réalise à quel point ça a des bienfaits. Mm-hmm. Fait que Patrick m'appelle. J'ai vraiment... comment je peux dire? Je sais même pas comment l'expliquer, mais moi, je suis tout le temps super occupée dans la vie. Puis cette fin de semaine-là, j'avais moins d'activités de prévu. T'sais, c'était facile à canceller ou à déplacer. Puis il me dit ça, puis je suis comme... Mais oui, Patrick, je vais y aller. C'est challengeant. Mais ça, oui, oui. Puis j'ai tellement rencontré une gang d'êtres humains extraordinaires. Là, ça a tellement été une belle expérience.
Ah, et vous l'avez complété.
Oui.
C'est pas à venir, vous l'avez complété.
Non, c'est ça. C'était.
Alors, racontez-nous comment vous vous sentiez, là, comme leader, bien sûr, mais physiquement et mentalement, en amenant ces gens-là au Mont Washington. C'est quand même un défi important, là.
Oui. Bien, physiquement, je veux dire, ça allait bien. Je veux dire, c'est un peu ce que Patrick cherchait. C'est comme... C'est peut-être difficile un peu de trouver quelqu'un que sur le fly comme ça, à la forme nécessaire pour monter le Mont Washington sans préavis.
Oui,
là.
Oui.
Mais étant donné que je faisais beaucoup de rando puis de course, ça allait. Puis je cherchais quelqu'un vraiment de bienveillant aussi pour accompagner les gens parce que le but, c'était ça, c'est que c'est pas de la performance. Là.
Mm-hmm. Oui. C'est du rendement un peu physique, mais ce n'est pas la performance.
C'est ça, c'est de te surpasser, mais c'est pas d'aller au sommet le plus vite possible.
Mm-hmm. Ça m'intrigue un peu parce que, bon, en fait, vous avez subi beaucoup d'épreuves là, avec vos deux cancers. Est-ce que ça... vous a rapproché des gens? On parlait de bienveillance, mais oui. Est-ce que l'empathie était peut-être davantage au rendez-vous?
Bien, ça a comme... Ça a toujours fait partie de mes valeurs, l'empathie, mais je dirais plus, oui, ça a changé dans le sens que moi, en randonnée, j'étais du genre à flyer au sommet, puis à pas nécessairement attendre mes amis quand j'étais avec des gens. Puis là, c'est tout le contraire. Boum. Je veux d'être en arrière, puis échanger avec ceux qui sont en arrière, puis les encourager, tu sais.
Oui, oui. C'est peut-être un changement là,
oui.
qui s'est produit. Là,
oui. Hein? Oui, oui, vraiment. Oui. Là, c'est plus important du tout le temps que ça prend à aller au sommet, là.
Ah, c'est formidable quand même. Oui, oui. Ouais. Vous jouissez vraiment
oui.
Du moment, mais des gens qui sont autour de vous. Vous ralentissez s'il le
oui.
faut.
Puis c'est là que tu te rends compte à quel point, quand tu essaies d'aller trop vite, il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des plantes que tu ne vois pas. Y a c'est juste, ça va trop vite.
Mm-hmm. Oui, 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 oui. Et Patrick est peut-être bien content du résultat, j'imagine.
Ben, je pense que oui. Il faudra lui demander, mais je pense que oui.
Est-ce que... j'avais une expression en tête, là, la montagne russe des traitements, mm-hmm. L'évolution des maladies. Encore une fois, la randonnée, la marche, vous a aidé à gérer cette montagne russe. Hein?
C'est oui, ça? Absolument.
Oui, 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 oui. Et ça, vous pourriez, j'imagine, le recommander à tout le monde.
Oui, ça, c'est sûr et certain, d'aller jouer dehors.
Oui.
C'est... Oui,
oui. Oui. Et... En fait, on en parlait avant l'émission, la randonnée, la marche et la course aussi. En fait, le sport en général, mm-hmm. le plein air en général, ça nous aide à surmonter les épreuves, mais aussi de prendre du recul lorsque nous avons des émotions positives, la joie, ainsi de suite. Et ça nous aide justement à prendre le pouls de notre intérieur, même si on est, surtout si on est dans la joie peut-être.
Bien, prendre le temps vraiment de le vivre. Puis je pense que le meilleur exemple que j'aurais pour ça, c'est justement ma participation à la Big Wolf Biker d'Akakuna. Dans le fond, moi, j'ai fait 9 boucles au complet, donc 60,3 kilomètres. Puis la dernière boucle, je savais que j'avais vraiment plus d'énergie. Puis la décision que j'ai prise, c'est de manquer le cut-off de l'heure qui s'en vient, mais de prendre le temps de marcher la dernière demi puis de profiter, de réaliser ce que j'ai accompli. Tout ce que j'ai traversé, puis de vivre ces émotions-là. Là. Mmh. Fait que j'ai pris le dernier 3 km pour juste réfléchir à ça, justement, vraiment du côté positif. Là.
Oui, oui.
Ralentir, puis c'est pas grave si je le manque, puis si j'ai fait 67 km, mais non officiel.
Oui,
mais c'est
oui.
pas grave.
Oui, et vous l'auriez pas fait avant?
Non, je me serais, comment je peux dire, je me serais mis dans le rouge pour pouvoir arriver à temps, pour pouvoir compter cette boucle-là.
Oui.
Quand dans le fond, c'est la même distance. C'est juste que ma dernière boucle, elle compte pas officiellement, mais mes jambes, ils l'ont marché quand même. Mm-hmm. Puis j'ai vraiment pris le temps de savourer ma dernière demi-boucle, là, si je peux dire. Oui.
Alors là, je suis curieux. Vous avez tout fait ça. Il y a des gens qui vous ont suivi, les amis, la famille. Ça a été quoi leur réaction?
Hey, ça, c'est une bonne question aussi. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi leur réaction, là.
Papa, maman...
Ils sont bien fiers, je pense. Oui. Je pense que le commentaire que j'ai souvent, c'est qui me trouve inspirante. Tu sais, moi, j'ai de la misère à le voir, mais... Oui, je pense que c'est ça, là.
Est-ce que vous avez en tête d'en parler, des conférences, peut-être, devant un public?
J'haïrais pas ça. Oui. Dans le même sens que j'aimerais avoir l'opportunité de guider d'autres groupes à la randonnée, justement, des gens qui se donnent peut-être pas le droit... d'accomplir des défis parce qu'ils disent « Ah, moi, je suis pas déjà assez en forme. » Puis même chose à la course. Moi, j'aimerais coacher les gens qui se donnent pas le droit de s'inscrire à des courses parce qu'ils se trouvent trop lents. J'aimerais vraiment ça, les encourager puis dire « Hey, non, la course, c'est pour tout le monde. Là. Mm-hmm. C'est pas grave le temps. »
Oui, oui. Parce que vous avez quand même surmonté tellement d'épreuves. Mm-hmm. Vous êtes un exemple parfait, si je peux dire, de ne pas hésiter.
Oui, hein, c'est
de
ça.
De se lancer.
Oui, d'oser.
D'oser.
Ouais,
oui,
d'oser
oui.
se donner des défis.
Oui, oui, oui. Et ça, vous le feriez comment, vous pensez, pour encourager les gens? Avez-vous songé à ça?
Bien, oui
je
et non.
Je pose de bonnes questions. Hein?
Pas non? dans les détails, mais oui. Oui, c'est ça, tu sais, j'aimerais coacher. Puis,
ah oui?
Mm-hmm. Oui. Ça serait surtout ça, parce que j'ai l'impression que souvent, les commentaires qu'on a dans des courses, c'est que, tu sais, moi, j'ose pas m'inscrire, mettons, à un 5 km parce que ça va me prendre 45 minutes, puis tout le monde va me trouver pas bon. Mais c'est pas ça, là. Tu sais, t'as fait 5 km, c'est pas rien courir 5 km, là. C'est pas grave le temps que ça prend.
Oui, c'est ça.
Juste.
Ouais. C'est intéressant parce que, encore une fois, on en a parlé beaucoup à l'émission. Nous sommes dans une société de performance,
oui, c'est ça.
De rendement. Là. On nous oblige quasiment, là, que ce soit dans le sport ou dans le travail ou,
ouais,
ou dans la famille ou quoi que ce soit. Là. Il y a tellement de pression,
exact,
aujourd'hui. Hein.
Puis moi, ma vision du plein air en général, peu importe le sport, là, c'est qu'il faut enlever l'élément de performance. Là.
Mm.
Il n'y a personne qui gagnera sa vie avec ça ou très peu. Là, fait que ça donne rien de se mettre cette pression-là. Là.
Mm-hmm. Oui, oui.
Et ça puis... va t'encourager encore plus à sortir. Oui,
ah, c'est ça, parce que ben justement, il n'y a pas de pression.
C'est
donc,
ça. C'est
on
ça.
Peut en jouir,
oui,
davantage, c'est ça. Et pour les personnes qui vous ont écouté maintenant, là, durant ces quelques minutes, avez-vous des conseils? Avez-vous des recommandations, des suggestions pour les gens peut-être qui sont dans la même situation que vous, que vous étiez? Et qu'est-ce qu'on leur dit?
Bien, moi, je leur dirais surtout à quel point c'est important de prendre soin de soi puis de faire du sport, puis le faire en plein air, c'est encore mieux. Parce que quand il t'arrive des épreuves, quand t'es déjà en forme, ça l'aide énormément. Pas juste le physique, le mental aussi.
Mm-hmm.
Puis quand, justement, il y a des choses moins le fun qui arrivent dans la vie, de retourner à ça, dans le fond, le sport, le plein air, puis ça l'aide vraiment à mettre les choses en place puis à accepter plus rapidement.
Mm-hmm. Oui. Parce qu'il y a le côté prévention aussi.
Oui, hein, c'est ça, c'est les deux.
C'est les,
oui,
deux.
Côté, oui, prévention, oui, beaucoup aussi, oui.
Alors, je vous pose la question, si vous n'aviez pas fait tout ce sport, cette activité physique avant, est-ce que vous auriez, c'est la question que vous vous posez peut-être, est-ce que vous auriez relevé ce défi des deux cancers?
Bien, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus difficile. Là. Les traitements, là, je sentais que ça faisait une différence que j'étais en forme. Là.
Mm-hmm. Oui, oui, oui. Alors, vous regardez l'avenir, là. Comment ça se... Vous faites quoi comme travail maintenant?
C'est ça, je suis encore géologue, mais
oui,
je suis plus dans le domaine de l'ingénierie civile, si on peut dire. Fait que les roches qui sont utilisées en construction, que ce soit pour les routes, pour le béton, ces choses-là.
Oui. Alors, on continue,
oui,
dans ce beau métier,
ah,
que,
oui,
vous,
c'est,
avez.
Ah oui, c'est passionnant.
Ah oui, oui, oh, parce, oui, que c'est à l'extérieur, c'est la nature. Oui,
c'est encore mieux que les mines. Là. C'est...
Et le sport, ça fera toujours partie,
oui,
ah,
oui,
de votre,
toujours,
vie.
Toujours, toujours.
Je vous posais aussi la question parce que, bon, encore une fois, à l'émission, on parle souvent de la marche, mais de la marche au quotidien, de la,
oui,
marche en ville. Et vous, c'est définitivement la randonnée.
Oui,
c'est
la randonnée.
Ce que,
oui.
C'est ce que vous préférez.
Oui.
Et c'est à cause de la nature, des gens que vous rencontrez, tout ça. Et vous aimez bien la solitude.
Oui, voilà. Bien, j'aime beaucoup, bon, être avec des gens, mais j'aime aussi beaucoup être seule.
Bon, on peut marier les deux facilement.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Alors, merci beaucoup, Myriam, d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Et au grand plaisir, peut-être, de vous revoir en compagnie de Patrick Auger et d'Éric Lafortune et d'autres qui ont surmonté certaines épreuves grâce à la marche et grâce à la randonnée. Alors, au plaisir de vous revoir, Myriam. Chers amis, dans sa chronique « Le corps en marche » cette semaine, Michel Cousinat-Boudet nous invite à penser autrement à propos de la marche. Ensemble, nous allons emprunter un sentier peu fréquenté, un sentier qui pourrait bien transformer notre façon de concevoir la santé, l'équilibre et même notre perception du monde. Nous allons parler d'une pratique surprenante et pleine de bienfaits, la marche à reculons. Alors bonjour Michel et merci de votre invitation, assez inusitée quand même.
Bonjour Denis. Effectivement, vous pourriez penser que marcher à reculons c'est étrange, peut-être même un peu fou, mais laissez-moi vous surprendre. De plus en plus de recherches démontrent que la marche à reculons est non seulement bénéfique pour notre condition physique, mais elle améliore aussi notre mental et stimule nos capacités d'apprentissage. Ensemble, nous allons explorer ces bienfaits insoupçonnés et comprendre pourquoi intégrer quelques minutes de marche à reculons dans notre routine quotidienne pourrait nous être utile. Avant de plonger dans les aspects scientifiques, permettez-moi de vous raconter l'histoire fascinante de Pliny Wingo, un homme audacieux et un peu farfelu du Texas. En 1931, Wingo a entrepris de marcher autour du monde à reculons.
Oh!
Oui, oui, vous avez bien entendu, à reculons. Alors, pendant des mois, il s'est exercé à marcher de cette manière, même en pleine nuit pour que personne ne lui vole son idée. Il a ainsi parcouru plus de 7000 milles, se retrouvant même inscrit dans le livre des records Guinness. Wingo a traversé l'Amérique, puis l'Europe jusqu'en Turquie, toujours en marchant à reculons, et affirmé que cela était bon pour la santé. Et malgré les blessures, une cheville foulée, une fracture et même un accident de voiture, Wingo a vécu jusqu'à l'âge de 98 ans, continuant de marcher à reculons toute sa vie.
Mais là, Michel, la question se pose, Wingo avait-il raison?
Eh bien, Denis, la science semble lui donner raison. Commençons par le corps. Au cours des dernières décennies, la marche à reculons est apparue comme un moyen incroyablement simple et peu connu d'améliorer notre forme physique. En fait, des études montrent que le meilleur moyen d'améliorer notre marche vers l'avant est de marcher à reculons. En marchant à l'envers, nous faisons travailler des muscles différents dans notre tronc et dans nos jambes, ce qui rend tout le bas du corps plus fort et plus efficace. La marche à reculons améliore aussi notre équilibre et notre stabilité. Sans nos yeux pour nous guider, nous devons mieux sentir l'espace autour de nous, un sens qu'on appelle la proprioception. Cela repose sur des neurones dans nos articulations et nos muscles qui renvoient les informations à notre cerveau et à notre système nerveux pour coordonner nos mouvements. Ce processus se répète des centaines de fois par jour, comme quand on évite un obstacle ou notre pied s'adapte à un sol irrégulier.
Ah oui, oui, oui.
Les chercheurs ont également établi que la marche à reculons est bien plus exigeante physiquement que la marche classique. En effet, lorsque nous marchons en reculons, nous atterrissons d'abord sur nos orteils avant de rouler vers le talon, ce qui engage nos muscles des jambes et nos muscles fessiers de manière plus intense. Cela stimule notre système cardiovasculaire, brûlant plus de calories que la marche avant. Une étude de 2011 a même démontré que la marche à reculons, seulement 10 minutes, 4 fois par semaine, réduit les douleurs lombaires en à peine 3 semaines.
C'est vraiment intéressant. Dites-moi, la science a-t-elle trouvé d'autres bienfaits ou avantages de la marche à reculons?
Oui, des recherches préliminaires suggèrent que la marche à reculons rend nos ischio-jambiers, qui sont les muscles à l'arrière des cuisses, plus souples et améliore notre posture. Normalement, lorsque nous marchons, nous nous penchons légèrement vers l'avant. Mais la marche à reculons empêche cela, poussant notre colonne vertébrale et notre tronc à travailler davantage pour que nous restions droits et stables, tout en réalignant notre bassin. D'autres études montrent que la marche améliore la vitesse, la foulée et la coordination. En marchant à l'envers, nous renforçons nos genoux, nos quadriceps, ce qui rend nos mouvements plus fluides et moins fatigants. La marche à reculons, particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des problèmes de mobilité comme celles souffrant d'arthrite, de la paralysie cérébrale, de sclérose en plaques ou des blessures aux genoux et à la colonne vertébrale.
Alors ça, Michel, c'est pour le physique. Là, je me demande s'il y a des effets positifs sur notre mental.
Encore une fois, oui. En marchant à reculons, nous mettons au défi notre cerveau de nouvelles manières. Des recherches fascinantes de Huberman Lab ont révélé que quelques minutes passées dans un mouvement instable non familier, comme la marche à reculons, incitent le cerveau à libérer des neurochimiques, accélérant la plasticité cérébrale. En d'autres termes, cela rend l'apprentissage plus facile et améliore la mémoire. Cependant, ces effets ne fonctionnent que lorsque le mouvement est encore nouveau pour nous. Plus nous pratiquons, plus notre cerveau s'habitue et l'effet diminue. Cela dit, même de courtes séances peuvent entraîner des améliorations notables en matière de concentration. En effet, une étude menée sur des enfants atteints de TDAH a révélé qu'après 10 minutes de marche à reculons, ils arrivaient à se concentrer plus longtemps et faisaient moins d'erreurs dans leurs tâches scolaires. Imaginez le potentiel de cet exercice pour les adultes, dans un monde où la concentration est de plus en plus difficile à maintenir.
Et réduction de médicaments peut-être aussi, là.
Les études ne sont pas encore rendues là, mais c'est prometteur.
Oui, prometteur.
Et la marche à reculons, c'est aussi une redécouverte sensorielle. Il y a quelque chose de magique dans le fait de marcher à reculons. Lorsque nous marchons vers l'avant, nous nous concentrons sur ce qui est devant nous, souvent en mode automatique. Mais en marchant en arrière, sans nos yeux pour nous guider, nous faisons appel à d'autres sens et redevenons hyper conscients de notre corps. Avec chaque pas, nous ressentons le sol sous nos orteils, la pression exercée sur nos talons, et nous prêtons attention au vent, à notre équilibre, à notre posture. Cette redécouverte sensorielle nous permet d'être pleinement dans notre corps, d'être attentif à chaque petit mouvement. En marchant en arrière, nous existons uniquement dans notre corps et cela peut offrir une pause bienvenue de notre esprit souvent surchargé.
Votre recherche est très convaincante, Michel. Alors, avez-vous quelques conseils pour ceux et celles qui voudraient en faire l'expérience?
Dont moi. Bien sûr, Denis. Évidemment, il est essentiel de pratiquer la marche à reculons en toute sécurité. Comme Wingo l'a appris à ses dépens, marcher en arrière comprend des risques de chute ou de blessure. Pour commencer, choisissez un terrain plat et familier, sans obstacle. Portez des chaussures minimalistes, si possible, pour ressentir pleinement le terrain et affiner vos sensations. Concentrez-vous sur chaque pas en commençant doucement et en roulant bien le pied du bout des orteils vers le talon. Essayez de pratiquer quelques minutes de marche à reculons chaque jour. Vous verrez rapidement des améliorations dans votre équilibre, votre souplesse et peut-être même dans votre humeur et votre concentration. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez, pourquoi ne pas essayer quelques pas à reculons? Non seulement cela vous apportera des bienfaits physiques et mentaux, mais cela pourrait aussi changer votre perspective sur la marche. Et pourquoi pas, sur la vie elle-même. Votre corps vous en remerciera.
Ah, Michel, quelle belle découverte que la marche à reculons. Ben, merci beaucoup de nous avoir invités à explorer cette fascinante dimension de la marche. Et au grand plaisir de vous accueillir bientôt pour une autre chronique, Le corps en marche.
Merci, Denis. Thank you.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier nos invités Myriam Saint-Louis et notre chroniqueuse Michèle Cosina-Baudet. Et merci également à notre technicien magicien Lysandre Duplé. Et comme toujours, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé tous les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de les télécharger. Je vous laisse cette semaine avec un proverbe zen. Quand tu as atteint le sommet de la montagne, continue à monter. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.